Depuis le printemps dernier, on découvre les situations en dehors de la capitale de l'État, dans les petites villes périphériques. Et pour se rendre dans certaines d'entre elles, il faut être escorté par des militaires parce que la route est totalement dangereuse. Tous les villages sont détruits sur le bord de la route. Il y a des carcasses de blindés, des carcasses de véhicules. Il n'y a plus une maison ni habitée, ni debout. Partout, il manque les toits, les murs. Et quand on arrive dans certaines de ces petites villes, comme la ville de Bama, par exemple, la ville est complètement déserte. Il n'y a pas une maison habitée et les populations déplacées et regroupées dans l'enceinte de l'ancien hôpital qui est plus fonctionnel puisqu'il est complètement envahi de plusieurs milliers de déplacés. Des déplacés qui manquent de tout, de nourriture, d'abri, de soins médicaux, d'eau potable. Et ces pénuries durent depuis plusieurs mois, donc ça a conduit à des mortalités très importantes, des taux de malnutrition aigus globales autour de 40-60% suivant les sites. Il y a une épidémie de rougeole en cours sur certains de ces sites. Donc il y a une mortalité absolument effroyable, en particulier chez les petits enfants. De plus, dans la ville de Bama, quelque chose de particulièrement inquiétant, c'est qu'on trouve quasiment plus d'hommes jeunes.
Ils ont été enrôlés soit dans les milices, soit à Boko Haram.
On suppose qu'une partie, comme ils sont la cible de la répression de part et d'autre, se sont enfuis de la région. Certains ont été enrôlés dans les milices supplétives de l'armée, dont dans Boko Haram. Mais il y a cet élément de fragilité démographique très frappant. C'est la disparition, et quand je dis des hommes jeunes, c'est des garçons après l'âge de 12 ans.
Quelles sont les conditions de vie dans les différents camps de réfugiés autour de Maïdougouri ?
La situation s'est améliorée sur le plan sanitaire, la mortalité est sous contrôle, même si les gens manquent de beaucoup de produits essentiels pour avoir une vie décente. C'est toujours pas des conditions décentes, mais c'est pas une surmortalité. Par contre, leur sécurité reste précaire, parce que même les camps à la périphérie de Maïdougouri, il y a des incursions de Boko Haram, de la rébellion régulière, petite, pour voler du bétail assez souvent, parce qu'il semblerait que la rébellion manque aussi de nourriture dans les campagnes. Donc ils ont tendance à s'approcher des villes régulièrement pour essayer de capturer le bétail qui paie en périphérie des villes.
Quels sont les besoins principaux et comment s'organise votre activité justement là-bas ?
Les besoins principaux, c'est la nourriture. Ces populations qui sont affamées depuis des mois et ça pèse énormément sur le nombre de morts qu'il y a chaque jour, chaque semaine au sein de ces groupes. Puis après, c'est les soins médicaux, l'eau potable, les abris. C'est des tentes ou des feuilles de plastique armées pour construire des huttes, les latrines, la vaccination rougeole, bien entendu. Se préparer au potentiel d'une épidémie de choléra, parce que c'est une région où le choléra est endémique. Il y a presque des petites épidémies presque tous les ans. Donc dans ces conditions-là, une épidémie de choléra, par exemple dans la capitale, Maïdougouri, ça serait catastrophique. Il y a 1,4 million de personnes déplacées dans la capitale de l'État. Donc tous les quartiers populaires sont vraiment en situation extrêmement précaire sur l'accès à l'eau, sur l'accès à la nourriture. C'est une des situations les plus sévères. Ce n'est pas la seule situation sévère. Aujourd'hui, on parle, on voit ce qui se passe au sud du Soudan, par exemple. Mais c'est là quand même une particularité qu'il n'y a pas de système de l'aide en place à la hauteur des besoins aujourd'hui.
Justement, vous notez qu'au niveau fédéral, finalement, il n'y a pas de réponse aux cris d'alarme lancés par les différentes ONG ?
Lancés par le gouverneur de l'État, déjà, depuis plusieurs mois. La réponse, il y en a une, mais elle est trop limitée. Le niveau fédéral a envoyé de la nourriture, par exemple, dans le Nord. Il a envoyé du maïs, mais dans des quantités trop limitées. Il y a un philanthrope nigérian, Dangote, qui a fait une énorme donation alimentaire pour le mois de Ramadan. Et depuis Ramadan, c'est terminé, évidemment. Donc il y a un effort de la société nigériane. Au niveau de l'État de Borno, c'est très, très net. Il y a une vraie mobilisation. Et puis il y a un début de mobilisation au niveau fédéral. Mais ça reste vraiment très en dessous. Si on imagine qu'il y a 600 000 personnes qui sont dans la situation que j'ai décrite, là, regroupées dans des poches comme ça, dans des petites villes, et ayant besoin de tout, il faudrait bouger 300 tonnes chaque jour. Et on est très très loin de ces quantités. Si on a un tiers de ces quantités ou à la moitié de ces quantités-là, on n'en est même pas là.
Au-delà de la distribution de la nourriture ou des moyens médicaux, vous avez noté aussi le manque de formation du personnel médical ?
On embauche tous à la même source, personnel du ministère de la Santé nigérian qui fait un gros effort pour aider les organisations internationales à monter leurs opérations, mais évidemment le personnel qualifié, les médecins qualifiés, les infirmiers qualifiés, ils sont en nombre limité. Après, vous avez du personnel peu qualifié. Vu la gravité des cas médicaux sur les sites, c'est trop juste quoi, comme qualification pour espérer faire des actes qui soient décisifs en termes de survie des malades qui se présentent dans un état grave.